Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal. Je suis Gisèle Cage à la présentation et voici les titres de ce jour. Vital Kamerhe salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington. Pour le président de l'Assemblée nationale, cet engagement marque un tournant important dans la recherche d'une solution politique et diplomatique à la crise persistante dans la région de Grand Lac. Ce lundi 1er juillet marque le début de l'examen national de fin d'études primaires à travers la RDC. En Ituri, les épreuves se déroulent normalement, y compris dans les zones touchées par l'insécurité. Nous ferons également le point sur le déroulement de l'examen dans la province du Maniema. Professeur Kabeya Chinkuku alerte sur l'absence de politique économique cohérente en RDC. Invité de Radio Okapi à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, l'économiste de l'Université de Kinshasa déplore l'inaction de l'État face aux défis structurels et appelle à un soutien accru aux opérateurs économiques nationaux. Restez à l'écoute. Nous ouvrons ce journal avec la réaction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Dans sa déclaration faite en marge de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance ce lundi 30 juin, il a salué la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, conclu à Washington sous la médiation des États-Unis. Pour lui, cet accord marque un franchissement d'une étape décisive dans la quête d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Vital Kamerhe estime que cet accord représente un jalon majeur dans la construction d'une réponse politique et diplomatique à une crise qui dure depuis plus de 3 décennies. Le président de la Chambre basse du Parlement a profité de cette occasion pour appeler au renforcement de la cohésion nationale, affirmant que l'appartenance à la nation est la seule identité qui vaille en temps de crise. Grâce à nos attirés reportages.
À en croire Vital Kamerhe, au-delà de sa portée immédiate, l'accord de Washington porte l'espérance d'une réponse économique et sociale appropriée en créant les conditions propices à la valorisation de l'immense potentiel du pays. D'après lui, ce cadre nouveau favorisera une prospérité partagée entre les pays et les peuples de la région des Grands Lacs, sans jamais transiger sur la souveraineté ni sur l'intégrité territoriale de la RDC. Tout en félicitant le président de la République pour cette avancée historique, déclare-t-il, Vital Kamerhe s'est dit convaincu que les prochaines étapes seront conduites avec la même sagesse et la même dextérité qui ont permis au pays de réaliser cette série de succès diplomatiques. S'agissant de la cohésion nationale, il déclare, je le cite, « L'appartenance à la nation nous impose de taire nos différends, de bannir la haine, de dépasser nos égos, d'oublier nos intérêts personnels et de faire primer l'intérêt supérieur de la nation. » Fin de citation. Dans la foulée, Vital Kamerhe souligne le rôle fondamental des responsables des confessions religieuses. Bénéficiant d'une oreille attentive du chef de l'État et franchi de toute affiliation politique ou sociologique, ils doivent pleinement mesurer les attentes du peuple et la confiance qu'il leur accorde. Il leur revient de faire triompher l'agenda de la paix, de l'unité et de l'amour fraternel, affirme-t-il.
Cap sur le Japon où la semaine de la RDC à l'Expo universelle Osaka 2025 s'est achevée en beauté. Les activités se sont achevées ce lundi 30 juin dans une ambiance festive portée par la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La Premier ministre Judith Suminwa a honoré de sa présence cette cérémonie de clôture entourée de plusieurs membres de son gouvernement, parmi eux le ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du PME, de la communication et des médias, ainsi que celui de la culture, art et patrimoine. Des mandataires des entreprises publiques congolaises et des officiels japonais ont également pris part à l'événement. Une présence diplomatique et culturelle forte qui témoigne de la volonté de la RDC de renforcer ses liens avec le Japon et de promouvoir son image sur la scène internationale. Alain Hirung est sur place, voici son reportage.
La chef du gouvernement a rappelé dans son allocution que la présence de la RDC à l'Expo universelle Osaka 2025 s'inscrit dans le cadre de la consolidation des échanges économiques, commerciaux, technologiques et culturels entre la RDC et le Japon. Judith Suminwa.
Ces initiatives
sont essentielles pour bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique pour nos deux pays.
Au nom du gouvernement japonais, Takashi Najun, commissaire général adjoint de l'Expo Universelle Osaka 2025, a salué le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Tokyo et Kinshasa. De son côté, se confiant à la presse, le ministre du Commerce extérieur s'est réjoui de la réussite de la semaine dédiée à la RDC, à ce grand rendez-vous d'affaires, Julien Paluku.
Nous avions dit à son temps que la musique également est un élément important pour cimenter les liens culturels entre le Japon et la RDC.
Signalons que cette journée nationale a été agrémentée par le ballet national venu de Kinshasa, l'orchestre Eagle Vision Tokyo qui regroupe des musiciens congolais et japonais, ainsi que l'artiste et musicien Tabu Fataki Junior de Belgique. Depuis Osaka, Alain Hiron, Mouchinge, Radio Okapi.
Éducation en Ituri, l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2025 se tient sans incident majeur sur l'ensemble de la province, y compris dans les zones affectées par l'insécurité. Le directeur provincial de l'éducation nationale a confirmé que tous les centres d'examen sont opérationnels malgré les tensions signalées le week-end dernier, notamment dans certaines localités du territoire de Djougou. Il a également salué l'appui logistique des casquets bleus de la municipalité qui ont facilité le déploiement sécurisé des malles d'examen jusqu'à des zones sensibles comme Drodro. Un reportage signé Isaac Remoyopé.
Environ 50 450 élèves finalistes des primaires, dont un peu plus de 25 000 filles, sont attendus pour ces tests nationaux dans la province de l'Ituri, déclare le directeur provincial de l'éducation nationale Ituri 1. Tous les centres ont fonctionné normalement pour la passation de ces épreuves. Les inquiétudes qui planaient pour les élèves de l'axe Massumbuko-Drodro suite à l'activisme des groupes armés les week-ends ont été dissipées, précise cette autorité scolaire. Les malles contenant les épreuves ont été acheminées à Drodro grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Les forces de la MONUSCO et les FARDC ont également renforcé les patrouilles dans certaines entités à haut risque sécuritaire pour protéger les élèves. Au premier jour de l'épreuve, aucun incident n'est signalé, rassure les autorités. Dans les territoires de Mambasa, notamment dans les chefferies de Babila, Bakwanza et Babombi, ce test s'est déroulé normalement, précise la coordonnatrice de la nouvelle société civile. Marie-Noël Anotane indique que certaines écoles n'ont pas fonctionné cette année dans cette entité à cause des exactions des rebelles des ADEF. Ailleurs, Mahagi, Irumu et Haru, tous les centres sont opérationnels. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province éducationnelle Maniema 1, ils sont 35 856 candidats, dont 17 870 filles réparties dans 121 centres d'examen à affronter ces épreuves décisives. Le top départ a été donné depuis l'école primaire Kindouville en présence du gouverneur de province qui a personnellement lancé les épreuves. L'organisation est placée sous la supervision des délégués nationaux garants du bon déroulement de ces deux journées d'examen, un moment crucial pour ces milliers d'élèves, symbole de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre scolaire. Florence Kizalunga pour le reportage.
Avant de lancer cet examen, le gouverneur de province encourage les élèves à un travail personnel bien fait et à éviter la facilité. Moussa Kabankoubi.
Chers élèves, lorsque on n'a pas fait de bonnes études primaires et secondaires, vous aurez des problèmes toute votre vie. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'éviter la facilité dans la vie. Ce sont les antivaleurs.
Interrogé, ces enfants disent être bien préparés pour affronter ces examens. Suivez Anna Oyele et Annie Olombo.
Aujourd'hui, je suis heureuse de venir présenter mon examen de NAFEP. Je suis sûre que je vais réussir.
J'ai travaillé avec des items. On a fait des exercices en classe, plus même des 10 items. Et là, je suis rassurée que je vais réussir.
De leur côté, le superviseur national met en garde tous les intervenants. Boutchou Kifundu.
À tous les intervenants, surtout aux surveillants. J'ai dit que eux, ils doivent avoir le sens des responsabilités. Ils sont là comme œil et oreille de notre ministère. Et en tant que tel, ils doivent veiller à ce que les examens se déroulent dans des conditions normales et que les enfants travaillent par leurs propres efforts.
Signalons que cette première journée est centrée sur la culture générale et le français. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Santé à présent dans les territoires de Loubéfou, province du Sankoro. 26 cas de mpox ont été enregistrés depuis le début du mois de mai, dont 2 dans la zone de santé des Minga, selon une alerte lancée par le député national élu de la circonscription Hippolyte Ndjongambo. Il appelle le gouvernement central à intervenir rapidement pour assurer la prise en charge des malades. Le docteur Patrick Kitundu, médecin chef de zone de santé de Minga, précise que l'aire de santé des Maya Mateke est la plus touchée par cette épidémie. Il ajoute que certains cas concernent des enfants de moins de 14 ans, ce qui renforce l'urgence de la situation. Le docteur Kitundu s'est exprimé au micro d'Esther Ndalafina.
Actuellement, nous vivons dans une épidémie de mpox. Sur place à Loubéfou, il y a depuis des 10 cas très graves. Certains cas sont à Filulato, un village de 15 km de Loubéfou centre. Là, c'est 4. L'aire de santé la plus touchée actuellement, c'est l'aire de santé Maya Mateke. La situation reste à désirer. Nous n'avons pas de médicaments appropriés. Récemment, même le nombre des échantillons que nous avons envoyés au labo, 19 cas sont sortis positifs. 19, 8, 7, 26 cas positifs. Nous avons encore des échantillons que nous voulons expédier vers le laboratoire. Des cas que nous avons d'abord identifiés avant ne sont pas pris en charge complètement. Ils sont en train de transmettre la maladie à d'autres personnes. Et c'est récemment que j'ai pris l'option de les isoler. On prend en charge moyennant ce que nous on a sur place. Et à part les médicaments que nous avons reçus de la DPS, s'il n'y a pas de médicaments là, les malades achètent. Et je tends la main aux autorités qui nous viennent en aide. Si on a les médicaments, nous allons bien prendre en charge les malades.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, bientôt l'érection d'un centre d'excellence en santé sexuelle et reproductive. Les travaux y afférents ont démarré au début du week-end à l'hôpital général de référence de la Tchopo. La pose de la première pierre a été faite par le directeur des cabinets de la ministre provinciale de la Santé. Ce projet est mis en œuvre par l'ONG IPAS grâce au financement des Pays-Bas. Ce projet vise à améliorer la prise en charge des femmes et filles et adolescentes. Le point avec Jacques Moukankolé.
C'est un bâtiment de 18 mètres de long et 11 mètres de large qui sera construit dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de la Tchopo. Selon Moïse Alifaki, point focal d'IPAS dans la province de la Tchopo, cette intervention rentre dans le cadre de l'accompagnement de la promotion de la couverture santé universelle prônée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Comme ce centre qui sera érigé, il va appuyer l'équipement, les médicaments et tout autre intra pour la prise en charge des cas.
Le médecin chef des zones de santé de la Tchopo, le docteur Lolo Foili salue cette intervention qui vient résoudre plusieurs problèmes liés notamment à la prise en charge des filles, mères adolescentes et autres personnes vulnérables.
Il n'y avait pas de banque de sang, il y avait des décès maternels et infantiles. Parce qu'avec cette construction, ça va permettre à ce que les malades puissent passer dans de très bonnes conditions.
Le directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé, Dr Christian Mapele, exhorte les parties prenantes à une implication totale pour garantir le respect des normes en vue de la durabilité et la fiabilité de cette œuvre. Jacques Moukankolé, Kisangani. Radio Okapi.
Sud Kivu, l'atterrissage en catastrophe d'un avion hier à Minembwe, dans les territoires de Fizi, suscite de vives réactions. Dans un communiqué officiel, des forces armées de la RDC évoquent un aéronef non identifié ayant pénétré illégalement l'espace aérien congolais. De son côté, Moïse Nyarugabo, député national honoraire et notable de la communauté Banyamulenge, avance une version différente. Selon lui, l'appareil transportait des médicaments destinés aux populations locales en détresse à Minembwe, une affaire au contour encore flou qui soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité aérienne et les enjeux humanitaires dans cette région sensible. Martial Kiza Biamungo, reportage.
Ce jeu de ping-pong sème la confusion dans l'entendement de l'opinion publique. Les porte-parole des FRDC dans son communiqué précisent que les radars ont intercepté lundi 30 juin 2025 un aéronef non identifié ayant violé l'espace aérien de la RDC sans autorisation préalable de survol. Moïse Nyarugabo, un des notables Banyamulenge, interprète autrement cet atterrissage. Pour lui, l'avion transportait une aide humanitaire constituée des médicaments en faveur des populations locales. locale. L'administrateur du territoire des Fizi, Sami Badibanga, indique que toutes les aides humanitaires transitent chez lui.
Tous les produits pharmaceutiques passent par chez moi à Fizi Centre, amenés par CICR, Médecins du Monde, en collaboration avec les zones de santé, et ces derniers sont acheminés à Minembwe et une assistance apportée aux blessés de cœur.
Des sources indépendantes sur place à Minembwe rapportent que l'aéronef s'est écrasé sur une colline à Madegou. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Ce mardi 1er juillet 2025, près de 200 casquets bleus irigoyens ont quitté la ville de Goma dans la province du Nord Kivu pour regagner leur pays. Selon des sources au sein de la MONUSCO, ces départs s'inscrivent dans le cadre du processus de rotation des troupes actuellement en cours au sein de la mission onusienne déployée depuis plusieurs mois à Goma et dans les territoires environnants. Ces soldats ont œuvré pour la protection des civils et le maintien de la paix dans une région marquée par l'instabilité. Restons dans la région. Au moins 20 personnes, majoritairement des jeunes, ont été interpellées et deux autres blessées ce mardi matin lors d'une opération de bouclage menée par les éléments de l'AFC M23 dans l'agglomération de Sake, 24 km de Goma, située dans le groupement de Kamouronza, à territoire de Masisi. Il s'agit de la quatrième opération du genre dans cette zone que la rébellion justifie comme une mesure sécuritaire. Ces interventions répétées suscitent toutefois l'inquiétude au sein de la population locale qui dénonce les arrestations arbitraires et un climat de peur persistant. Le point avec Ronelyn Timbonera.
C'est depuis 5 heures du matin que les éléments de la rébellion AFC M23 ont bouclé les quatre principaux quartiers de la cité de Sake. Ce sont notamment les quartiers Mosquée, Virunga, Bikali et Ndolero. Selon nos sources à Sake, au moins 1000 personnes, entre autres de jeunes et même les personnes âgées, ont été sorties de leur maison dans la foulée et acheminées vers un stade. Après une opération de contrôle d'identité, 20 pour la plupart de jeunes ont été interpellés et conduits à Goma pour motif de leur lien présumé avec soit les FARDC, soit les Wazalendo ou les rebelles Hutu rwandais FDLR. Les deux victimes blessées sont des jeunes qui, selon quelques témoignages, tentaient de fuir quand la patrouille rebelle leur aurait tiré dessus. Rappelons qu'il s'agit d'une quatrième opération de bouclage menée dans la zone des Sake et village Kimoka, groupement Kamouronza, par la rébellion du M23. Cela porte à présent environ 80 jeunes interpellés par la rébellion pour leurs liens présumés avec les ennemis des rebelles. Si la rébellion justifie cette opération par la montée de l'insécurité et l'activisme des hommes armés dans la zone des Sake, certains défenseurs locaux des droits humains expriment leur inquiétude au sujet du traitement de personnes interpellées.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a confirmé ce mardi avoir mené une frappe aérienne la veille sur un café internet en bord de mer à Gazaville, affirmant avoir visé plusieurs terroristes du Hamas. Toutefois, elle précise que l'opération fait actuellement l'objet d'un examen interne. Selon la défense civile de Gaza, cette frappe a causé la mort de 24 Palestiniens et fait de dizaines de blessés, ravageant les cafés Al-Kaba, un lieu très fréquenté par les familles et les jeunes. Des témoins décrivent une scène d'horreur avec des corps déchiquetés et des cris de détresse. Parmi les victimes figure également un photojournaliste local. Selon les autorités du Hamas, ce drame survient dans un contexte de guerre qui dure depuis près de 21 mois depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 à l'origine de l'escalade actuelle.
L'invité.
À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le professeur Kabeya Chikuku, enseignant à la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa Unikin, dresse un constat préoccupant: l'absence d'une véritable politique économique nationale. Invité de Radio Okapi, il déplore les conséquences de ce vide stratégique, notamment la faillite de nombreuses entreprises publiques et le découragement des entrepreneurs congolais. Pour lui, il est urgent que le gouvernement mettent en place de mécanismes de soutien concret aux opérateurs économiques locaux afin de relancer la croissance et renforcer la souveraineté économique du pays. Il s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour professeur Kabeya Chikuku. La RDC célèbre son accession à l'indépendance. Quels sont les progrès sur le plan économique tout au long de ces 65 ans de parcours?
Les progrès économiques, il n'y en a pas eu. Il faut se regarder dans le miroir et dire, il n'y en a pas eu. Que dire lorsque l'ensemble des sociétés d'État, c'est des canards boiteux, lorsque plus de la moitié des sociétés d'État ont été décapitalisées, ça veut dire ont perdu leurs capitaux, lorsque la moitié de notre classe d'affaires nationale n'existe plus, ceux qui étaient là, qui portaient l'étendard de l'innovation, du management congolais, ne sont plus là. Tous ceux qui étaient représentatifs de notre effort particulier de création ne sont pas là.
Alors
il faut dire que c'est même difficile de dire à un peuple qui nous écoute qu'il y a des progrès économiques. Il y en a où? Dans quel domaine précis?
Ou comment corriger les erreurs accumulées?
Il faut un sursaut national. Il faut un sursaut national, non pas sous la forme des grandes messes, de « on va s'unir pour partager le pouvoir de manière équilibrée », des trucs comme ça. Ça ne nous avance pas. Ça nous a enfoncés. Il faut qu'il y ait des patriotes de plus en plus nombreux, de plus en plus unis, de plus en plus solidaires dans la marche collective de notre peuple et qui appuient au sein du gouvernement les hommes et les femmes qui veulent avancer.
Comment expliquez-vous, professeur, la persistance de la guerre avec l'ingérence extérieure?
Un terme explique un autre. La guerre et l'ingérence extérieure s'alternent. Nous pouvons provoquer une guerre entre nous, Congolais, inconscients. Nous provoquons une guerre entre nous, Congolais. L'étranger vient s'en mêler. L'étranger provoque une guerre. Ça nous divise, nous. Et ce sont les deux processus que nous avons. Lorsque l'étranger nous veut la guerre, il parvient à nous diviser. C'est cela, cette suite d'événements qui marque notre marche collective nationale.
L'un des parrains de cette indépendance que nous célébrons, Patrice Emery Lumumba, avait dit « La vraie indépendance, c'est l'indépendance économique ». Comment comprenez-vous cette phrase?
Il ne faut pas être sorcier pour comprendre ça. Tous les peuples, toutes les nations, à toutes les époques de l'histoire, ont compris cela. Il n'y a pas d'indépendance d'un homme sans un soubassement économique, sans un soubassement financier. Mais l'économie et les finances, c'est le domaine où nous avons le moins travaillé. Je dirais même, c'est le domaine où nous avons reculé. Nous sommes partis d'un revenu national de l'ordre de 1040 dollars autour de 1960. Nous sommes à quelque chose comme 400 dollars par tête. Évidemment, la démographie a augmenté. Évidemment, les Congolais qui étaient morts en masse sous la colonisation, ils ont augmenté leur nombre. Le nombre est aujourd'hui évalué autour de 100, 102 millions. Nous étions 15 millions et demi à l'indépendance. Donc, ça a évolué. Et donc, le gâteau aussi n'a pas augmenté. Le gâteau par tête a diminué. C'est tout à fait normal. Mais diminuer jusqu'à 400 en quittant un chiffre comme 1040, 1100 dollars, c'est dramatique. Ce que ce n'est pas le nombre qui explique cette diminution du revenu national par tête. Et donc c'est une mauvaise gestion ou une absence de gestion de notre propre capital national qui fait que le chiffre soit tombé si bas. Et donc, je crois que sur le plan économique, il nous faut réfléchir pour redémarrer. En fait, ce que je souhaiterais pour 30 juin 2025, c'est une réflexion collective, une sorte d'élan collectif dans la réflexion sur notre propre existence et sur ce que nous pouvons ensemble entreprendre pour assumer cette dimension de notre existence. Ressaisissons-nous, ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour un peuple de reconquérir sa dignité, son indépendance et sa prospérité.
Professeur Kabeya Chikuku, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le professeur Kabea Chikuku, enseignant à la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa. Dans cet échange avec Blaise Ndongala Mayanda, il a partagé son analyse sur les défis économiques persistants du pays, tout en proposant des pistes concrètes pour renforcer le soutien aux opérateurs économiques congolais et relancer la croissance nationale. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Okapi. À la mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Coordination Élisée Tshikota, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Okapi. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.